automatiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Et non, on va pas aller jusqu'à en finir non plus. Hein. On n'en est pas encore rendu là. Bonjour. Aujourd'hui, 14 avril, nous fêtons deux anniversaires. Le 14 avril 1945 s'achevaient les procès de Nuremberg durant lesquels ont été jugés les principaux dirigeants nazis. Le 14 avril 1912, le Titanic heurtait un iceberg pour couler au petit matin. Quel rapport avec le sujet dont nous parlons aujourd'hui? Aucun lien direct, je vous l'accorde. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si un jour nous aurons un Nuremberg du capitalisme. Si tous les dirigeants politiques et économiques, si tous les dignitaires du système, qui par leurs décisions et leur absence de décision, exploitent l'homme et la nature, les détruisent et les épuisent, qui ruinent les systèmes sociaux, qui réduisent en esclavage des nations et en affament d'autres, qui spéculent, qui contrôlent, qui répriment et qui jettent à la poubelle, qui nucléarisent, qui nanotechnologisent et qui modifient génétiquement. Si tous ces dirigeants, disais-je, avant de me laisser emporter par l'énumération, tous ces criminels en col blanc seront un jour jugés, ou si nous connaîtrons la guerre civile mondiale et les grands bouleversements climatiques, deux phénomènes déjà bien entamés, sans qu'ils soient jamais inquiétés. Le Titanic. Est-il besoin d'expliciter l'image tellement elle a été usée et abusée? Tout l'objet de cette émission, de manière générale et pas seulement ce soir, est de montrer que nous ne sommes pas condamnés à nous battre pour des canots de sauvetage ou continuer à jouer notre partition pendant que le bateau coule. Nous pouvons aussi agir individuellement et, surtout, collectivement. Construire toute une flottille pour éviter l'iceberg, détourner le grand paquebot, arrêter ses machines et réfléchir, et c'est pas triste.
I am a universalist.
Yeah.
I believe in the family of man. I believe in the brotherhood of man.
Well,
I'm curious about my neighbor. I hope he's curious about me.
Shut up!
Et non, Aurélien ne va pas la fermer parce que Aurélien va nous expliquer de quoi nous parlons ce soir. Bonsoir.
Bonsoir. Alors ce soir, comme le disait Paul tout à l'heure, on va parler d'insurrection jardinière. On va parler de guérilla verte. On va parler de guérilla végétale. On va parler de toutes ces possibilités de reverdir la ville. C'est extrêmement important aujourd'hui à Paris. Il y a de plus en plus de jardins associatifs qui se développent. On en parlera un petit peu plus tard. Beaucoup d'initiatives individuelles et collectives, et surtout collectives, tu avais bien raison de le rappeler, qui se mettent en place pour réintroduire de la nature au cœur de la ville, pour nous permettre de revoir des fleurs, nous permettre de se réapproprier des espaces aussi. Nous permettre de refaire verdir des coins de pavé, de remettre la main sur des endroits que le béton a oublié de prendre. Et c'est quelque chose qui est éminemment important à l'heure actuelle parce que, en dehors de la simple satisfaction de voir des fleurs, de voir des abeilles revenir, butiner et en fin de compte prospérer. Et on sait qu'à Paris, les abeilles prolifèrent particulièrement parce que les fleurs ne sont pas traitées, parce que il n'y a pas de culture pourrie par des produits phytosanitaires. C'est particulièrement important parce que ça nous permet d'avoir une démarche. Pas uniquement de reverdir notre environnement proche, ça nous permet de reverdir notre manière de faire. Ça nous permet d'avoir cette graine d'insurrection qu'on va planter un peu partout autour de nous. Et c'est de ça dont on va parler ce soir.
Alors, puisqu'on parle de graines d'insurrection, nous allons écouter un grand insurrectionnel parmi tant d'autres. Et puisqu'on parle de fleurs, on va écouter Georges Brassens, Une jolie fleur dans une peau de vache.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à l'âme un mal funeste. Et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Voilà une belle chanson. Alors, la Green Guérilla est-elle solitaire? Les crimes végétaux et autres attentats aux bulbes se perpétuent-ils seuls de nuit avec une lampe torche à la main? Peut-être, mais il faut bien s'entraîner. Pour ça, il y a les jardins associatifs. Au fond d'un square du 11e, Aurélien a trouvé le potager au carré tenu par l'association Culture en Herbe. Ici, l'insurrection végétale se fait en plein jour et surtout à plusieurs.
L'année dernière qui commence à faire des fleurs, donc on se dit qu'on va voir des fraises bientôt. On a de la laitue, du cerfeuil et on a aussi quelques fleurs. Donc on a mis des bulbes à l'automne, du muscarier, des jonquilles, on a remis du glaïeul là au printemps, donc voilà, ça pousse.
Cafouille connaît toutes les plantes de son jardin. Les 6 bacs de 2 mètres carrés chacun ont été mis en place par la mairie du 11e, pour des écoles. Mais faute de jardinage scolaire massif, l'association de Cafouille s'occupe de 4 bacs. ici, et il n'y a pas que de l'alimentaire.
La menthe, c'est vrai que ces plantes, on les connaît plus sur leur aspect aromatique qu'on utilise en cuisine, mais c'est aussi des plantes médicinales. Et du coup, boire des petites tisanes, c'est l'occasion de s'en rappeler, d'en parler, de discuter sur leurs propriétés thérapeutiques. C'est vrai que si à partir du jardin, on pouvait se dire « Ah bah tiens, c'est vrai que je peux me nourrir moi-même, c'est vrai que je peux soigner pas mal de maladies courantes moi-même », déjà ce serait un gain énorme, quoi.
Cafoui a une formation de sociologue, mais en bonne autodidacte du jardinage, elle a appris ces techniques traditionnelles irremplaçables qui permettent de se passer de produits phytosanitaires.
On travaille beaucoup sur l'association de culture, c'est-à-dire que c'est vrai que si on a 10 km de tassel de tomates en monoculture, et forcément la première maladie qui arrive, elle attaque tout. Là, en dessous des tomates, on met du basilic qui éloigne, on va mettre du basilic, des œillets d'Inde, enfin des plantes qui éloignent les insectes ravageurs ou les maladies qui attaquent la tomate. Il y a certaines plantes, genre l'ail, qui pareil éloignent pas mal d'insectes vu l'odeur. Donc il y a des plantes d'amis, il y a les plantes ennemies et on essaie, on n'est pas toujours super carré sur associer exactement celle qui va bien avec l'autre, mais déjà en diversifiant sur un même espace, en mettant plusieurs types de plantes, ça permet que les choses s'autorégulent pas mal. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Du coup, le jardin, c'est aussi... il est un peu à l'image de ça, quoi. C'est que moi, je ne suis pas du tout une bible du jardinage. Les gens qui viennent non plus, donc on apprend ensemble. Et du coup, c'est une manière d'expérimenter aussi, parce que du coup, on loupe des choses. Et ça nous permet l'année d'après de se dire, on pourrait peut-être faire autrement. De demander des conseils, j'ai grandi en ville, donc en plus je savais pas sur quoi pousser une tomate il y a 4-5 ans, donc non, je suis vraiment une novice, j'ai essayé d'apprendre un peu sur le terrain, et puis je continue d'apprendre avec les gens qui viennent au jardin et avec ce qu'on teste, et puis en bouquinant, en discutant avec d'autres gens.
Car le jardinage, ça se partage. L'association ouvre le jardin 2 après-midi par semaine, à tout le monde. Aujourd'hui, ce sont des familles d'un centre social voisin, qui sont venus partager en famille les apprentissages de Cafoui.
Et faire 2-3 pots en fonction du temps. Peut-être les adultes avec les enfants.
Alors qu'est-ce que tu veux
dans la tomate.
Qu'est-ce que tu veux planter? Il y a des tomates. Tu veux planter des tomates? Graines de tomates. Graines. On se débrouille.
Annabelle n'a pas de jardin. À peine quelques pots pour le balcon. Apprendre à sa fille June à jardiner, à se familiariser avec la nature, en milieu urbain, c'est devenu essentiel pour elle.
Ouais, parce qu'elle va pousser.
Elle peut pousser, parce qu'elles ont besoin d'eau, comme toi.
Besoin d'eau pour boire.
Pour boire, oui.
Alors du coup, il y a différentes...
Ouais, elle a déjà bu.
Elle a déjà bu.
On met 3-4 graines parce que des fois il y en a.
Les familles arrosent, sèment, cueillent, bouturent des misères et repartent avec les plantes sous le bras. Yapoui les invite à revenir dès qu'elles le veulent. Elles le feront. Le but, c'est d'ouvrir le jardin à tous, de semer chez tout le monde des idées de jardin.
Des graines de basilic, des graines noires. C'est un peu un point de départ pour ensuite faire essaimer d'autres jardins dans la ville, puisqu'on a quand même plutôt un public urbain. Ça fait effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire quand les gens voient un jardin, ils disent « tiens, c'est possible, ah, il y a une friche autour de chez moi ». C'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans Paris, parce que la ville a envie qu'il y ait plus de jardins partagés, jardins associatifs qui se mettent en place, il y a pas mal d'espaces en friche. C'est vrai que c'est dommage qu'ils ne vivent pas alors qu'on se rend compte que c'est intéressant et au niveau environnement et aussi au niveau lien social, donc c'est un mouvement qui est déjà bien en marche. On essaie d'y apporter notre petite graine, quoi, à notre échelle.
Et la petite graine, elle vient d'où? La petite graine, elle vient de l'association Cocopelli, dont on reparlera un petit peu plus tard. On en parlera également avec Paul. Voilà, donc ce jardin qu'on a été visiter, c'est pas le seul. Il y en a énormément. C'est autant d'endroits où, à l'heure actuelle, on peut apprendre à faire autrement. On peut apprendre à cultiver, on peut apprendre à mettre les mains dans la terre, apprendre aux enfants à le faire, surtout, à leur donner le goût de ça. Voilà, il nous semblait important de passer y faire un tour, parce que ça nous permet de savoir comment, après, ensemble, collectivement, ou chacun dans notre coin, mais c'est mieux à plusieurs, on va pouvoir reverdir l'espace urbain.
Allez, on parle de reverdir, et j'ai trouvé encore une autre chanson en rapport avec notre thème. C'est une chanson des Fatal Picard sur leur album « Droit de veto ». Et je vous laisse l'apprécier.
Paul, Paul, attention derrière toi! Attention, un chauffeur! Quand le danger fait face à l'amour, quand les sentiments appellent au secours, Raoul et Rosita, ils sont là. Ils aimeraient avoir un portable sans fil, mais c'est en vain, car ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans un feuilleton des années 80. Raoul et Rosita, justicier de la loi. Raoul et Rosita, justicier de la justice. Policier au grand cœur, abonné au bonheur, jardinier bagarreur. Sur son dos, Rosita, elle touche vachement quand il s'agit de tulipes. Et puis c'est sûr, elle taille super bien l'été. Les fleurs.
Si Rosita pleure la nuit, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais Raoul l'emmène jouer au bowling quand elle a froid. Et ils ont tellement d'affaires à résoudre et à essayer qu'ils ne pensent plus à leurs problèmes hormonaux, ou très peu.
Raoul et Rosita, c'est pas vous les méchants. Raoul et Rosita, même si vous montrez les dents. Policiers au grand cœur, abonnés au bonheur, armés de leurs outils. Ils nettoient vos soucis.
Aujourd'hui, Raoul et Rosita dans mes chaussures de bowling me ballonnent.
Et voilà, c'était donc les Fatal Picard. Alors, tout de suite, nous allons commencer notre interview avec Paul. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que tu peux te rapprocher du micro ?
Oui.
Merci, qu'on t'entende bien. Du coup, ce soir, de quoi est-ce que tu vas nous parler, Paul ? Tu nous as déjà un peu expliqué.
Alors, je crois que je vais vous parler d'un petit jardin métropolitain, un petit jardin qu'on peut trouver sur pied, partout dans la ville entière, sur les trottoirs de Paris, de la City. Et moi, je l'appelais Potogreen. Et voilà.
Donc. Alors, c'est né de quoi, Potogreen ?
Paul, est-ce que tu peux parler vraiment dans le micro ? Parce que sinon,
je suis trop
pas.
Loin.
Ouais,
d'habitude,
voilà.
Je suis toujours trop près, mais là, bon. Donc, alors, ce poteau green, en fait, c'est investir tous les poteaux, les affreux poteaux qu'il y a dans la ville, qui sont les bits anti-stationnement, marron, vous voyez, le truc très, très moche avec la boule, qui empêche les voitures de se garer sur les trottoirs. Donc, vraiment un poteau qui parle de l'incivisme. Eh bien, c'est justement détourner ce nom, cette négation, en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Ben, des petits jardins. Alors,
comment tu fais concrètement ?
Comment je fais concrètement ? Alors concrètement, j'ai inventé un prototype. Je suis plasticienne au départ et l'idée, on peut dire, a germé par rapport à ce poteau, de faire quelque chose de joli, de faire des petites, une couronne, on va dire, une couronne à l'endroit du cou du potelet et formée donc de quatre poches. Toujours avec du recyclage, hein, donc c'est avec de la toile de tente recyclée. Et à l'intérieur, nous avons quatre briques de lait qui sont coupés aux bonnes dimensions, bien proportionnées, pour que ça ait vraiment de la gueule de loin. Et dedans, on met des petites fleurs, des petites plantes. Et comme ça, on a une forêt, on dirait même une trame verte, tout au long d'une rue. On a la trame verte sur tous les poteaux. Et les poches en toile de tente sont réalisées par... J'ai donc rencontré un atelier d'insertion professionnelle, Emmaüs, qui s'appelle la Friperie Solidaire, qui a son siège social à Maison Alfort et qui a deux boutiques à Paris et à Alfortville. Et donc, on a vu ensemble qu'est-ce qu'on pouvait, comment on pouvait créer un atelier de couture, puisque c'est donc du textile. C'est des pochettes un peu, on va dire, comme des caouets. Hein. Quatre pochettes dans lesquelles on met donc les briques de lait.
Oui, tu t'es apporté justement un exemplaire pour nous montrer. Effectivement, ça, couleur kaki, ça fait vraiment, vraiment végétal. Ce qui est assez... ce qui est assez marrant, c'est de voir d'une part c'est assez touffu, donc ça, ouais. le poteau disparaît vraiment, en tout cas le haut du poteau disparaît vraiment derrière. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la variété, parce qu'en fait tu as quatre plantes différentes, voilà. Sur le même poteau.
Sur le même poteau, donc on imagine sur 10 poteaux on a déjà 40 plantes différentes. Donc là, par exemple, là, je me suis amusée à mettre du thym. On peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre aussi des petites potagères. Enfin, on peut mettre de la petite roquette sauvage. On peut avoir vraiment des plants, voilà, des fleurs. Et donc, l'idée, c'était vraiment de végétaliser tout un quartier. Donc, j'ai rencontré la mairie du deuxième qui sont très impliquées sur la végétalisation des quartiers. Et d'autant que l'arrondissement du deuxième est très minéral. Et ils ont été complètement partants. Et on s'est dit, ben voilà, on va investir plusieurs quartiers. Et on va faire 300 poteaux green.
Qui est-ce que tu as embarqué avec toi pour faire ça?
Alors, j'ai embarqué donc, à l'atelier Emmaüs, avec lequel je travaillais. J'y tenais vraiment, parce que c'est vraiment... j'aime bien les transversales, moi, dans les projets. J'aime bien que des gens complètement différents. Donc, il y a les écoles, les enfants. Donc, je prends des photos aussi pour qu'il y ait des retours sur Emmaüs. Je leur montre comment ça se passe. De l'autre côté, aux enfants, je leur explique que c'est un atelier d'Emmaüs qui fait les poches, qui fabrique tout ça. Il y a la coopérative de rue et de cirque, qui est donc une coopérative qui travaille beaucoup sur les spectacles de rue, sur les spectacles de cirque, qui est vraiment au départ aussi de cette végétalisation. J'ai aussi un partenaire, la ferme Sainte-Marthe, qui fait aussi des graines bio.
D'accord, c'est de là que viennent les sachets de graines que tu nous as rapportés.
Voilà, pour que vous les plantiez, les semiez, parce que moi, je veux que vous ayez votre poteau green.
Alors, vous ne pouvez pas voir ni les sachets, ni les plantes, mais vous pouvez les entendre grâce à Aurélien.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Aurélien?
Alors, qu'on a là? On a de la tétragone cornue, donc ça fait des énormes graines d'un bon demi-centimètre de diamètre, avec des cornes partout, effectivement.
Ouais. Et ça, c'est comme des épinards, ça.
Concrètement, dans tes poteaux green, est-ce que tu mets à manger et est-ce que tu le manges?
Ben, moi, oui. Mais bon, parce que j'ai commencé donc à faire ce prototype au mois de mai et j'avais planté des petites tomates cerises. Bon, c'est vrai que ce sont vraiment des petits pots. Hein. C'est vraiment un clin d'œil aussi de végétalisation. Mais, les petites tomates cerises, elles ont poussé. Bon, j'en ai mangé 3. Mais c'est surtout pour montrer la diversité des plantes, je pense. Là, je travaille beaucoup en atelier avec Sarah Quentin, qui est mon assistante en ce moment, des ateliers de semis dans les écoles. On va toucher 400 enfants quand même, donc c'est pas rien, dans différentes écoles, des différents quartiers du deuxième. On fait des semis avec des plantes, des graines très différentes qui viennent donc de la ferme de Sainte-Marthe. Donc les gamins posent des questions. Et les gamins pensent toujours que les graines, c'est rond. Et ce qui est génial, c'est que quand on leur montre des graines, il y a des graines qui ressemblent à des filaments, à des brindilles, à de la paille, il y a des graines cornues. Et là, c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment un départ. En plus des noms qu'ils ne connaissent pas, c'est très poétique. Bon, la tétragone, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ils apprennent, mais des petits. Hein, ça part, je commence en maternelle, 3 ans et demi jusqu'à 11 ans.
Okay. Et est-ce que tu as l'impression de leur transmettre une certaine forme d'insurrection, une certaine manière de marcher à côté du chemin tout tracé, de marcher à côté du trottoir ou de l'utiliser différemment, en fait?
Ouais. Complètement, c'est exactement, c'est pas, je veux pas, ça va pas être des grillos, mais c'est moi vraiment mon rapport au quartier, il est comme ça. Je travaille beaucoup, donc je suis une plasticienne qui intervient sur les quartiers, enfin dans le sens du mobilier urbain qui je trouve qui est assez agressant et parfois, mais qui est nécessaire. Hein. Bon, là les poteaux ils sont nécessaires, sinon les voitures nous écrasent sur les trottoirs. Mais comment on peut détourner notre œil à nous ? En plus, on est à hauteur du poteau, enfin bon, les enfants sont à hauteur des poteaux et leur dire, ben non, il y a rien d'inéluctable. C'est pas parce qu'on est dans un quartier qui a ça qui est moche, on peut le transformer. Et comment on le transforme ensemble ? Mais en respectant aussi tout le monde. On n'est pas là non plus pour déranger aussi des personnes âgées qui n'aimeraient pas quelque chose. Comment on peut travailler ensemble pour avoir bon, une sorte de, un petit consensus un peu insurrectionnel, mais quand même voilà, qu'on vive ensemble en cité, quoi, dans la cité, dans le respect de l'autre aussi. Et les gamins, ils comprennent très bien, parce que quand on leur parle des poteaux, ils disent « Ah oui, je sais, avec les poussettes, on rentre dedans, c'est désagréable. Oh, » Puis les aveugles aussi, ils se cognent dedans. Ben oui, je lui dis « Bon, mais quand il y aura des voitures, quand tout le monde conduira sans se mettre sur les trottoirs, il n'y aura plus de poteaux, en effet. » Donc je lui dis ça, c'est vraiment une relation au civisme. Bon, on parle là-dessus, sur le civisme, sur la philosophie du civisme, et c'est intéressant, ouais. Mais des petits aussi, hein, ils sont très, très à l'écoute de tout ça.
Est-ce qu'ils ont l'impression d'œuvrer pour un bien commun, enfin, c'est-à-dire de faire en eux-mêmes un geste citoyen au sens propre, c'est-à-dire qui sert en fait à tout le monde, qui sert à reverdir cet espace-là?
Alors ça, c'est très intéressant, en fait, tout à fait, parce qu'au début, mais tous les gamins, c'est comme ça. On leur dit, on fait ça, on commence à faire des graines, alors on les fait dans des boîtes d'œufs, on fait que de la récup, on fait du récup de journaux, et on fait des petits pochons en origami, en papier journal. Et après, ça va se désintégrer dans la terre. Enfin, il y a tout un truc. Moi, j'aime beaucoup sur la récupération, c'est très intéressant, très important pour moi, pour les enfants. Je trouve comme apprentissage, comme éducation. Et là, tout d'un coup, ils disent, bon, ben, on va les ramener à la maison et tout, ça va être super. C'est... Bon, moi, c'est le mien, celui-là, c'est le mien. Bon. Je les laisse dire, parce qu'il ne faut pas les cabrer, les enfants. Dire, oui, c'est vrai, ça c'est le tien. Ça va être formidable, on va voir. Tiens, tout ça sur tout le trottoir, toute la forêt. Tu te rends compte comme ça va être beau. Mais ouais, tu es en train de travailler, c'est comme une exposition. Tu vois, tu vas voir les tiens, puis tu vas pouvoir voir ceux des autres écoles. Et on va se balader de trottoir en trottoir. Il y aura une reconnaissance. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on ne perd pas l'individualité. On ne peut pas la noyer. Au contraire, c'est que ton individualité, elle participe au collectif. Et elle est belle parce qu'on la remarque, mais en même temps, tout d'un coup, on va remarquer un champ de fleurs sur le trottoir. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Et les enfants, ils pigent ça très bien. Et moi, c'est ça que je veux leur dire. Je ne veux pas les braquer en leur disant « Non, sois pas individuel. » Si, sois individuel. Tu as ton talent à toi. Nous avons tous des talents. Et c'est les talents ensemble où on fait des jolies petites forêts, des jolies trames vertes dans la ville.
On va faire une petite pause musicale, mais déjà je me demande quelle heure il peut bien être.
Il est déjà 9h là.
Sur mon fond, il n'y a pas marqué Radio Réveil.
La fin du monde n'est pas seulement chez vous.
Et non, la fin du monde n'est pas seulement chez vous. Et puisqu'on parle de fleurs, j'en ai aussi des plus dark que celles que j'ai pu diffuser tout à l'heure. Alors on va écouter tout de suite sur un album éponyme de Mashiro, dont je vous avais déjà passé un morceau il y a quelques temps, un morceau qui s'appelle « Fleurs sanguines ».
Sont des fleurs sanguines, lassées par les phrases assassines et le chant du possible que piétinent les machines aux pensées pesticides. Les êtres sont des fleurs sensibles, elles naissent là où elles poussent, entre les ronces et les fosses, là où règne la frousse.
Cachées dans les remises, les chiens sauvages que la couleur effraie car leur âme est grise. L'autre les terrorise, comme le noir sous leur carapace et la folie que les angoisse.
La barbe qui sort de leurs gencives, c'est la rage qui les anime.
Et le gouffre, c'est l'ignorance qui les attise.
Les mauvaises herbes qu'ils sèment, frénésie primitive.
Les graines de cœur qui saignent, les fleurs qu'ils méprisent. Et les êtres qui saignent, les pleurs qu'ils maîtrisent. Accrochés à leur chaîne, accrochés à leur chaîne.
ce sont des fleurs sanguines et qui fanent sous l'engrais corrosif, s'accrochent aux racines et résistent aux ravages synthétiques. Elles sont vivaces et se passent des faces antipathiques. Elles sont vivantes et se placent entre les zones hermétiques. Les fleurs qui méprisent et les êtres qui s'aiment, les pleurs qui maîtrisent, accrochés à leur chaîne. Accrochés à leur chaîne.
Vous êtes toujours sur Fréquence Pareil Pluriel sur 106.3. Comme tous les jeudis, vous écoutez Zoom Écologie et comme chaque deuxième jeudi du mois, vous écoutez les Verts Solidaires. Tout de suite, nous continuons sur l'interview de Paul qui nous parle de Potogreen, mais pas seulement.
Donc Paul, ton opération Potogreen dont on vient de parler, elle s'inscrit dans le travail de ton association. Qui s'appelle...
Exactement, et mon association s'appelle Paris Label. Et un petit jeu de mots, bon, Paris Label, c'est un poème de Prévert, Label. Et là, par contre, je m'amuse à l'écrire Label, L-A-B-E-L. Donc voilà, c'est un clin d'œil à Prévert, donc le titi parisien.
D'accord, donc t'as déposé un label, justement, pour le Potogreen, un copyright.
Eh bien oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais pourquoi ? Parce que comme l'atelier Emmaüs, je voudrais absolument... qu'après ça se développe, que ça leur fasse leur donne du travail et que pourquoi pas d'autres villes, il y a des poteaux partout dans toute la France, bon, et pourquoi pas végétaliser la ville d'une façon assez simple comme ça, accessible à tout le monde puisque ce sont des briques de lait à l'intérieur, donc vraiment on n'est pas obligé d'acheter des pots, mais voilà, j'aimerais bien que ça développe un atelier de couture pour Emmaüs, donc j'ai préféré déposer le prototype.
D'accord. Et donc, ton initiative, c'est pas la seule à Paris. On en parle en début d'émission. Ça commence à se développer un petit peu partout, ce concept de guérilla jardinière. Le fait de sortir des sentiers battus pour planter quelques graines sur le sentier d'à côté. Je crois que ton opération Potogreen, elle rejoint pas mal celle lancée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Laissons pousser.
Oui, donc ça c'est très intéressant. L'année dernière, ils avaient commencé donc Laissons pousser et, avec des petits sachets comme ça de graines à faire pousser dans des endroits, des friches, des pieds d'arbres, et ça a touché énormément de villes et de jardins partagés. Et là, de nouveau, c'est reparti avec une étude de nouvelles graines et puis aussi elles ont fait des sachets spécifiques jardinières. Voilà, parce qu'il y avait une demande aussi, mais avec des fleurs aussi, comme ça, qu'il faut développer, plus sauvages.
Voilà. Donc, à l'initiative de Laissons pousser, je précise, il y a deux filles, Hélène Binet et Emmanuel Vibert, qui sont qui sont journalistes d'ailleurs, par ailleurs spécialisés, voilà, des questions environnementales.
Oui. Dis-moi, c'est beaucoup une histoire de filles, tout ça, les c'est garçons, quand même
pas mal une histoire de filles.
Alors, oui, où sont les garçons aussi, s'il doit y en avoir, attendez, ça ne me vient pas tout de suite, là.
Bah, c'est une histoire de filles qui arrive à entraîner pas mal de gens avec elle. Il y a quand même, donc là, pour la deuxième édition de Laissons Pousser, qui avait commencé en 2010, il y a 30 villes et collectivités qui participent. Voilà le principe dans l'idée de mener une reconquête végétale et participative. C'est de distribuer des sachets à tout le monde et voilà, de dire aux gens, bah, allez-y, plantez dans les espaces qui sont libres, dans, voilà, sur les talus que vous voyez, dans les grilles d'arbres, n'importe où. Il y a actuellement 3000 sachets qui sont distribués.
Ouais,
sur Paris, voilà, on peut les trouver à la Maison du Jardinage, dans le parc de Bercy. Dans le 12e. Et donc, voilà, comme tu le disais, il y a deux sachets cette année. Il y a un sachet de fleurs... de fleurs sauvages, donc avec des espèces qui attirent les insectes pollinisateurs, voilà, pour permettre le développement des abeilles.
Ah.
Et donc, tu disais qu'il y a aussi un sachet jardinier.
Oui, qu'ils ont créé, enfin, ils appellent ça le sachet balcon, je crois. Et je ne sais plus, il y a du myosotis, il y a plusieurs petites fleurs comme ça, très charmantes. Et voilà, parce qu'il y avait une demande des gens qui ont des balcons et qui, voilà, des personnes qui ne se sentent pas forcément directement dans la rue le faire. Je trouve ça bien aussi, parce que les balcons, c'est une grande surface aussi de végétalisation, en plus des murs, des trottoirs. Ouais, c'est très intéressant.
Il y a aussi une rue qui fait penser à l'opération Potogreen, qui est la rue des Noyers.
Voilà, la rue des Noyers, c'est formidable. Bon, elle est piétonne, donc elle a cet avantage-là.
Qui a Ménilmontant, je précise.
Ouais. Ils ont donc ils avaient des poteaux, mais bon, maintenant elle est presque totalement piétonne. Et ils ont donc fait des jardinières. C'est la Maison de la Plage, je crois. Je ne voudrais pas me tromper. Hein. Je crois que c'est cette association-là. Et qui a travaillé également avec des enfants. Ils ont fait des grosses jardinières et ils ont donc planté la grosse jardinière qui est autour du poteau, qui va du bas jusqu'en haut. Et donc, ils plantent. Et c'est intéressant parce que là, ils m'ont contacté parce qu'ils vont faire une grande journée. C'est le dimanche, je crois, 29 mai. Et il y a une journée comme ça, portes ouvertes. C'est pendant les portes ouvertes des ateliers de Belleville, des ateliers d'artistes de Belleville. Ils font tout ça sur le thème de l'insurrection, enfin, disons, de la végétalisation urbaine. Et il y a une table ronde avec la Guérilla Gardening, donc avec moi, Paris la Belle et les Potogreen. Je sais qu'il y a le Jardin d'Alice aussi. J'espère que j'en oublie pas. Donc, ce sera l'après-midi, il y aura une table ronde sur sur comment ou pas comment, mais enfin, parler de ça, comment on végétalise, comment on investit la ville autrement.
D'accord. Et le calendrier, là, dans les temps qui viennent, c'est quoi? On est en période de semis en ce moment, on en est où, là?
Alors, on est en période de semis, mais c'est énorme, parce que 300 Potogreen, je le rappelle, 300 Potogreen, donc dans plusieurs rues du deuxième, notamment, j'ai voulu que tout ça soit dans tous les quartiers qui sont différents. Il y a des quartiers plus populaires, plus bobos, on va dire, plus chics et tout. J'ai vraiment voulu qu'il y ait tout ce mélange dans le deuxième. Donc, on a choisi vraiment un quadrillage de rues, en allant de la rue Poissonnière à la rue Sainte-Anne, de la rue du Croissant, qui est une très jolie rue aussi, à l'école Beau Regard. Il y a vraiment toutes sortes de rues. Il y a le passage des panoramas. Enfin, bon, ça, vous pouvez le savoir en allant sur le site parislabelle.com. Mais l'insurrection va se faire... L'insurrection va se faire le dimanche 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Et dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5, nous allons donc descendre dans les rues et nous allons investir toutes ces rues et mettre 300 Potogreen. Et au petit matin, quand les personnes iront chercher leur croissant, il y aura la forêt dans la rue. Donc, rendez-vous peut-être le samedi si vous voulez, dans la nuit. rendez-vous le samedi 4 dans la nuit pour l'insurrection. Sinon, le dimanche, il y aura la fête toute la journée. On se baladera donc de forêt en forêt, de trame verte en trame verte, de rue en rue, comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, les gens adoptent les potogreens. Là, je fais un grand appel. Il y a déjà des jardins partagés de Paris qui participent. Ils adoptent des potogreens. Alors, adopter un potogreen, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je travaille sur les semis en avance. Voilà, par exemple, je dis, je prends 5 potogreens. J'aurai 5 potogreens sur le territoire trottoir du deuxième. Donc, je prends 5 potogreens. Donc, je prépare 5 x 4, 20. Pour 20 briques de lait, je prépare des semis. Et nous, fin mai, on vient dans les jardins partagés, on vient dans les endroits où ça a été semé. On les met en poche, dans les poches qui ont été faites par Emmaüs. Et après, on les met sur le trottoir avec une petite identification, avec un petit appel d'identité. Parce que, par exemple, il y a des jardins partagés qui vont travailler que sur les graminées, d'autres sur les plantes sauvages ou les mauvaises herbes, comme on dit. Donc, il y a vraiment aussi des petits jardins, on va dire, pédagogiques pour les abeilles, pour voilà, d'autres qui vont travailler sur des couleurs. Donc, ils font, par exemple, 5 potogreens sur la couleur bleue, par exemple. Donc, vraiment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le côté individuel qui devient collectif. Et ça, c'est intéressant. Tout d'un coup, l'individuel devient quelque chose de, moi, que j'aime beaucoup, quoi, une intervention collective. Et pour le bonheur de tous, même ceux qui n'ont pas planté ni semé.
Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous rappeler, puisque tu as dit rapidement le site internet, mais si on a envie de joindre Paris Label ou si on a envie de rejoindre Potogreen, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vous trouve?
Oui, alors bienvenue en tout cas, hein, déjà. Alors, donc le site c'est www.parislabel, P-A-R-I-S. L-A-B-E-L, parislabel.com, parislabel. Mais vous tapez, de toute façon, dans l'affreux Google, je plaisante, vous tapez Potogreen ou Parislabel, et ben vous tombez automatiquement sur le site, presque. Bon. Ou la mairie du deuxième, vous pouvez aussi aller. Ah oui, collecte de briques, on a besoin de 1200 briques de lait. Donc, on a déjà collecté 400. Il nous reste encore un peu de temps, mais on fait des collectes dans les écoles, les parents sont très partants. Et à la mairie du deuxième, il y a deux grosses poubelles jaunes où on met toutes les briques de lait standard d'un litre. Donc je fais un appel aussi sur ces briques de lait.
Et pour s'approvisionner en graines, pour les laissons pousser, vous allez sur laissonspousser.org et vous pouvez trouver, selon la ville où vous vous trouvez, Nanterre, il y a Pantin, il y a Paris, il y a pas mal de villes d'Île-de-France, vous pouvez trouver l'endroit où vous retirez vos graines gratuitement et les endroits où vous pouvez les planter officiellement. Et si vous connaissez votre ville, vous savez aussi où les planter pas officiellement.
Une bouteille jetée à la mer. Seulement, voilà, il n'y a plus de mer. Il n'y a plus que des bouteilles.
Céréales, kilos, buveurs de bière en série. On s'égorge, l'orge, doublon et de malt à whisky.
Faut que j'aille boire quelque chose, sinon je risque de reprendre connaissance.
On laisse que des cadavres derrière nous.
Mais je vous rassure, non, on laisse pas que des cadavres derrière nous. On va tout de suite se mettre un petit coup de musique avec quelque chose d'un peu plus groovy, un peu plus funky. On va écouter Atomic sur leur album Dance Troy et on écoute Groove Master.
Groove Masters, it's time to move faster.
Woo! That's what I'm saying. Yeah. Bringing it. Hey! Who's that? It's the Groove Master! Woo!
Groove Masters, it's time to move faster.
That's right. Come on!
Groove Masters. Time has come to have more than just fun. The work is never done until we know where we're from.
And what a groove master is someone who could just hold it down with the groove, you know? So this is dedicated to everybody or anybody who's ever got down, got busy, whether alone or with friends, And ain't nothing mattered but that moment, having fun. So this is to you. We are all groove masters.
Nous sommes tous des Groove Masters. Et puisqu'on parle de Masters, moi je me pose un petit peu la question en ce moment de qu'est-ce qui arrive à notre gouvernement. Je ne les comprends plus, vraiment. Ils avaient commencé comme on les attendait, bouclier fiscal, cadeaux riches, ostentation de l'argent, bling bling, coup de pouce à Bolloré, Bouygues et Lagardère, répression policière, chasse aux migrants, destruction du service public et du système social bâti à la libération, bref, un comportement de droite capitaliste, libérale, clientéliste et conservatrice. Et là, en quelques jours, sans explication, on se met à entendre une série d'annonces assez surprenantes. D'abord, une plutôt bonne nouvelle quand même, le 10 mai sera votée en urgence une loi pour interdire l'exploration et l'exploitation des huiles et des gaz de schiste. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, en gros, c'est une méthode qui, pour récupérer ce gaz ou cette huile, consiste à provoquer dans le sous-sol des mini-tremblements de terre en injectant des quantités astronomiques d'eau mêlées à un cocktail de plusieurs milliers, et oui, de milliers, de produits chimiques. Alors évidemment, pour les industriels, ça n'avait pas de conséquences néfastes, à part bien sûr la pollution des nappes phréatiques, la nécessité d'acheminer les produits chimiques dans de gros camions, l'impossibilité de traiter l'eau polluée et de la récupérer entièrement, les besoins d'aller reforer un peu plus loin tous les 2-3 ans, j'en passe et des meilleurs. Le gouvernement avait donné plusieurs permis d'exploration sans consulter les élus locaux ni la population. Il nous assurait que nous ne risquions rien et, d'un coup, il décide que c'est dangereux et qu'on ne peut pas permettre ça. Alors, si cette décision était isolée, on pourrait croire à un accident. Mais quand on annonce aussi la suppression du bouclier fiscal, le maintien de l'ISF qu'on avait dit vouloir supprimer, le départ prochain de nos troupes de Côte d'Ivoire et même une très improbable obligation pour les entreprises qui versent des dividendes de fournir une prime de 1000 euros à leurs salariés, tout ça en moins de 2 semaines, le doute n'est plus possible. Notre gouvernement a eu une révélation mystique et est devenu anarcho-autonome écolo-communiste d'ultra-gauche. Et c'est notre devoir de bons citoyens de l'encourager. Le gaz de schiste, c'est fini. Eh bien, allons plus loin, sortons aussi du pétrole et du nucléaire, qui sont dangereux et en quantité épuisable. Investissons dans la baisse de la consommation énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Nous partons de Côte d'Ivoire, quittons aussi l'Afghanistan, où on a moins que jamais apporté la liberté et la démocratie. on vire le bouclier fiscal et on donne des primes aux salariés. Allons plus loin, collectivisons et partageons le capital des grandes entreprises. Fermons la bourse, interdisons la spéculation, répartissons les richesses et le temps de travail, arrêtons d'exploiter les pays du Sud et supprimons leurs dettes. Il faut les encourager, je vous dis. Allez les gars, on est avec vous, continuez comme ça. Ça ne nous fera probablement pas voter pour vous aux prochaines élections, mais au moins on aura moins de boulot le jour de la révolution. Tout de suite, et sans transition, Aurélien, tu nous as dit que tu nous dirais un petit mot de Coco Pelli, c'est à toi.
Si vous trouvez une courge de variété pomme d'or sur les rayons de votre supermarché, déjà, c'est que vous n'avez rien à faire dans un supermarché. Autre chose, prévenez immédiatement la répression des fraudes. Car ce légume rustique, rond et jaune, ne fait pas partie des 531 variétés de courges et courgettes, dont 114 françaises, disponibles à la commercialisation en Europe. La personne qui vous vend votre pomme d'or a bien le droit de la faire pousser, certes, mais il doit la garder pour lui. Hors du catalogue des variétés, point de salut. Géré par le comité technique permanent de la sélection, organisme lié au ministère de l'Agriculture français, cette liste, le catalogue des variétés, est née en 1942. Elle recense les semences de fruits, légumes et céréales que les agriculteurs ont le droit de se procurer en vue de commercialiser une production. La liste, certes privée de la pomme d'or, est tout de même longue. À vue d'œil, 6100 variétés, dont plus de 2300 potagères. De plus, les professionnels français peuvent se servir dans les catalogues européens depuis 1966, ce qui leur donne accès à plus de 34 000 variétés, dont 16 000 potagères. Pensez donc. Le but officiel du catalogue est d'abord d'éviter les contrefaçons, selon le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers, le GNIS, qui contrôle la production des semences inscrites au catalogue. Donc le GNIS, comme le comité technique permanent de la sélection, avance que le catalogue permet de recenser, de protéger la diversité des variétés alimentaires. Mais cette diversité et cette bienveillance ne sont qu'apparentes. La grande majorité des variétés du catalogue est composée d'hybrides obtenus par croisement de variétés récentes. Ces variétés n'en sont en fait pas vraiment, dans la mesure où les semences de variétés hybrides sont prévues pour ne fournir qu'une seule récolte. Au-delà, les caractères des variétés utilisées pour créer la semence hybride ressurgissent de manière désordonnée et la variété que l'agriculteur a achetée l'année d'avant n'existe déjà plus. Il doit ainsi racheter des semences tous les ans s'il veut garder la même variété. De plus, des variétés peuvent disparaître du catalogue par faute de mainteneur. Je m'explique. Si personne ne paye au comité technique permanent de la sélection, les frais de maintien sur le catalogue d'une variété, frais de maintien qui atteignent quand même les 200 euros, une variété peut être bannie du catalogue et perdre ainsi son accès aux étals des commerçants. Abandonnée par leur mainteneur au profit de variétés plus productives, la courge pomme d'or et ses comparses ont donc disparu de la liste officielle, emportant ainsi dans la tombe leur diversité de taille, de couleur, de saveur. Le GNIS justifie cette disparition par la loi du marché. Évidemment, si une variété n'a plus de mainteneur, c'est que personne ne l'achète, donc qu'elle n'a aucun intérêt.
Et tu veux dire que sans souteneur, une variété n'a pas le droit d'exister ?
Oui, je prends conscience du caractère polémique de parler de ça. Aujourd'hui, on essaye de légiférer la prostitution. Voilà, je tiens à rappeler que je me dédouane complètement des débats sur le sujet. Je disais donc, si une variété n'a plus de souteneur, c'est que personne ne l'achète. Et puis ces variétés, nous dit-on, ne disparaissent pas vraiment, puisqu'il y a toujours le catalogue des variétés anciennes. Les variétés anciennes, donc interdites de nouvelles inscriptions au catalogue, peuvent être inscrites à un catalogue complémentaire, la liste annexe des variétés anciennes pour amateurs. Donc, les semences qui sont inscrites sont disponibles aux particuliers, mais on ne peut pas commercialiser les fruits et légumes qu'elles produisent. D'ailleurs, la courge pomme d'or, dont on parlait tout à l'heure, fait partie de cette liste, donc vous avez une chance d'en manger, mais il va falloir la faire pousser vous-même. Sauf qu'il y a encore les variétés qu'on n'inscrit pas, les variétés non inscrites, qui n'ont simplement pas le droit d'exister. On ne peut ni vendre, ni échanger, ni même donner ses semences. Certaines variétés font de la résistance. L'association Coco Pelli, dont on parlait tout à l'heure, qui nous intéresse ici, donne la possibilité sur son site internet d'acheter des graines disparues des catalogues, et ce, en toute illégalité. pour son fondateur, hein, pour l'un des gérants de l'association, qui s'appelle Raoul Jacquin, la diffusion de ces semences sert d'abord à lutter contre l'érosion de la biodiversité alimentaire, qui est le plus ancien, le plus précieux patrimoine de l'humanité, avec l'air et l'eau, précise-t-il. Une diversité adaptée à celle des terroirs et des climats, puisque leur jardin de 5 hectares en Haute-Provence fournit plus de 80 variétés de céréales, alors que même les hybrides de céréales ne poussent plus à cette altitude. Donc la culture des céréales avait disparu avec la perte de ces variétés anciennes. On a été obligé de créer des hybrides qui, en fin de compte, ne sont pas parvenus à pousser dans ces conditions-là. Mais la diffusion de semences oubliées, malheureusement, ça coûte cher. Ça coûte cher à Cocopelli, puisque l'association a été condamnée en décembre 2006 lors d'un procès intenté par le GNIS et la Fédération nationale des industriels de la semence, des gens charmants. Donc, l'association Cocopelli a été condamnée à verser 17 000 euros d'amende. Et pourtant, elle continue. Elle continue à conserver, à diffuser plus de 4 000 variétés pour leur éviter la condamnation à mort, qui est la sortie de tout circuit commercial. Mais elle le fait également au nom de la sauvegarde de la diversité gustative. Comme me disait Raoul Jacquin, la planète serait tellement plus jubilatoire si chacun avait accès à ce qu'il aime.
Et nous allons nous quitter sur ces belles paroles, parce qu'il est, il est déjà presque 9h30, c'est terrible, mais ça passe trop vite. Donc, merci Aurélien pour ces chroniques, merci Paul d'avoir été présente ce soir.
Merci.
Vous étiez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, je vous invite à rester à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel. Comme tous les jeudis soirs, vous écoutiez Zoom Écologie et comme chaque deuxième jeudi du mois, vous écoutiez Les Verts Solidaires. On se quitte sur un peu de musique avec notamment, si j'ai le temps avant que nos suivants arrivent, un petit peu de drum and bass avec The Sound of Movement.
Si comme mon verre est plein, je le vide. Et comme mon verre est vide, je le vide. Attends.
Alors, Zoom Écologie, sur FBB, c'est déjà pas mal.
J'ai bu toutes les bières qu'il y avait dedans depuis trop longtemps. Oh yeah!
Ensemble, n'est-ce pas par amour?